Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous le savez, habituellement, je suis une fille assez cynique, assez pessimiste, assez cinglante, mais ce qui se passe au cours des dernières heures, de voir ces jeunes, une génération qu'on a souvent décrite comme désabusée, qui manquait parfois de solidarité, de voir des jeunes se présenter à 5 heures le matin pour avoir leur vaccin dans une clinique sans rendez-vous, ça a fait fondre mon cœur. Je trouve qu'on est en train collectivement au Québec de fournir un effort de solidarité dans cette campagne de vaccination. Vraiment, ça m'a fait venir des larmes aux yeux. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces images-là, ces témoignages-là, vraiment, j'ai poussé un très ému. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Récemment, mon collègue Joseph Facal a écrit une chronique dans le journal qui a beaucoup, beaucoup fait réagir. Mais mon ami Joseph Facal, qui est chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, n'est pas présent sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, il répond en quelque sorte aux gens qui ont créé toute cette controverse. Et il y répond avec beaucoup d'humour. Joseph, bonjour.
Bonjour Sophie.
Écoute, il faut, pour tous ceux qui n'ont pas suivi ces montagnes russes, cette controverse, il faut commencer par le début. Donc, le 6 mai, tu as écrit une chronique dans le journal. Explique-nous de quoi ça parlait et comment était structuré ton texte.
Oh, écoute, controverse, tempête, on aurait presque envie d'ajouter tempête dans un verre d'eau. Si on conserve la santé mentale de se dire qu'il faut distinguer ce qui se passe sur les médias sociaux de ce qui se passe dans la société en général. Mais bon, oui. En fait, pour faire courte une longue histoire, j'ai écrit d'abord une chronique où je pointais du doigt ces excités au sein de Québec solidaire qui s'appelle le collectif antiraciste décolonial, la gang, si tu veux, qui s'estime persécutée au sein de Québec solidaire et qui trouve que les propos d'Amir Attaran sur le Québec sont tout à fait justifiés. Mmh. Et par la suite, évidemment, j'ai écrit une autre chronique, disons, dans laquelle je me mettais dans la peau de ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités visibles et qui probablement, parce que j'en entends beaucoup autour de moi, sont agacées d'être instrumentalisées par ces militants et toujours dépeints comme des victimes ou des enfants. Et donc, évidemment, mon texte a beaucoup fait réagir des gens de cette petite gang autour de Québec solidaire. Et donc, évidemment, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais des amis à moi, des anges gardiens, m'ont envoyé de jolies captures d'écran de ce qui se disait sur mon compte. Et en particulier, et c'est, si tu veux, le cœur de mon texte de ce matin. En particulier, il y a un militant qui, du haut des rideaux où il avait grimpé, m'a dit que je n'oserais pas, évidemment, parler de la même manière d'autres communautés. Et là, je le cite. Monsieur Facal, sachez que je ne supporte pas non plus les blancs lâches qui banalisent l'esclavage sous prétexte que celui-ci remonte à un passé très lointain, et écoute bien la suite, mais ne font jamais allusion à l'Holocauste de crainte de faire face à la force économique des Juifs.
C'est tellement clairement antisémite, là.
Voilà.
Tellement...
Nous y revoilà le vieux cliché antisémite du lobby juif qui tirerait les ficelles dans l'ombre. Alors évidemment...
Oui.
Tu comprends qu'il y a eu des plaintes de la part de certains ténors de la communauté juive. Ce personnage a effacé son propos. J'avais eu accès, évidemment, à la version originale. Ses petits copains de Québec solidaire ont fait front autour de lui pour le défendre. Mais, l'essentiel, Sophie, est que le chat est sorti du sac et, oh, comme il faut se méfier de tous ces donneurs de leçons. Tous ces gens qui se drapent dans la vertu, mais qui, quand ils s'échappent, nous montrent qu'eux aussi ont leurs propos parfaitement toxiques.
Oui. Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est quand même assez particulier de la part d'un collectif qui s'appelle Collectif Antiraciste, Antiraciste, et qui publie sur leur compte Facebook quelqu'un qui tient clairement, clairement, sans l'ombre d'un doute, des propos antisémites, des propos qui associent les Juifs à la mainmise sur les banques ou une forme de rétaliation qu'on prête aux Juifs, que si tu les critiques, leur réponse sera une réponse économique, parce que on le sait bien, c'est eux qui contrôlent les banques et tout le système bancaire mondial. C'est des vieux clichés de qui sentent les chemises brunes de 1936, là. C'est puant. Et je veux quand même spécifier, donc, les gens de Québec solidaire, après que le CIGA les ait mis en demeure de se rétracter, ils ont publié des excuses, mais leurs excuses sont tout aussi puantes, parce qu'ils disent, on s'excuse d'avoir publié ce texte-là, qui comportait de l'antisémitisme qu'on n'avait pas décelé. Comment ça, vous l'aviez pas décelé? C'est quel bout de les Juifs tout puissants dans le domaine des finances? C'est quel bout que vous aviez pas compris?
Mais écoute, Sophie, ce qui devient aussi, je ne sais pas si c'est pathétique ou risible ou les deux, c'est de voir ensuite certains des propos après le retrait du propos original et des excuses. Alors évidemment, on vole au secours, n'est-ce pas, du monsieur qui a commis cette horreur, et il y en a un qui dit, je cite, « Construire la paix et la tolérance, c'est accepter ses erreurs et reconnaître la blessure de l'autre. Beau geste d'humilité et d'écoute. » Alors évidemment, il dit cette horreur absolue, il se fait taper sur les doigts, il l'efface, et on salue cela comme un beau geste d'humilité et d'écoute. Et ces gens-là passent leur temps à faire la morale aux autres et à se draper dans la vertu et à nous dire que le racisme, c'est toujours chez les autres. Hey, ça va faire. Il y a une espèce de supériorité morale chez ces gens pseudo-progressistes que je ne suis plus capable de supporter. Et bien entendu, quand c'est rendu que des gens comme Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ne savent plus quoi faire avec des plus radicaux qu'eux, ça en dit long sur ce qui doit se passer au sein de Québec solidaire. Mais bon, enfin, on verra en fin de semaine, là, ils sont supposés laver leur linge sale sur cette question.
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut le spécifier. En fin de semaine, c'est le Conseil national de Québec solidaire et il y a une motion, justement, pour discuter de l'avenir de ce collectif-là. Mais tu vois, Frédéric Bastien, sur Facebook, disait, il y a pas 42 solutions, là, il faut qu'il ferme ce collectif-là parce que c'est, tu peux pas, quand t'es un parti pas au pouvoir, mais quand t'es un parti démocratiquement élu qui siège à l'Assemblée nationale, tu peux pas avoir parmi tes membres et sur... Tu sais, je veux dire, c'est un comité extérieur, mais c'est un comité de Québec solidaire. Oui. Donc, tu peux pas avoir les mots Québec solidaire associés avec des propos antisémites. C'est totalement inacceptable. Et je voudrais rajouter quelque chose, Joseph. Imagine que le Parti québécois, la CAQ, le Parti libéral, avait en son sein un collectif ou un plus marginal, disons plus extrême, plus radical, plus, ben tu sais, tous les partis politiques ont des franges plus modérées et puis des franges plus interventionnistes, plus radicales. Bon, imagine qu'un de ces partis-là aurait donc en son sein une frange plus radicale qui aurait, par exemple, sur le site officiel là, du parti, mis un commentaire critiquant le début du commencement de l'amorce de l'islam. Je dis même pas des propos islamophobes, je dis critiquant le début du commencement de... Les gens de Québec solidaire seraient les premiers à déchirer leur chemise, à grimper dans les rideaux, ils seraient accrochés au plafonnier et traiteraient tout le monde d'islamophobe, puis qu'ils demanderaient une commission parlementaire, puis demanderaient que les membres de ce collectif-là soient bannis à vie des médias sociaux, convoqués à Tout le monde en parle pour qu'on leur retire leur... tu comprends? C'est cette démesure, c'est ce deux poids, deux mesures, et c'est cette démesure dans la réaction qui me fait dire que moi aussi, je trouve ça puant, les membres de ce collectif-là. Et il y a autre chose aussi, parce que toi, tu n'es pas sur les médias sociaux, donc tu n'as pas vu la réaction dans certains milieux à ta chronique, et il y a des gens... comme par exemple Christopher Curtis, qui est le l'anglo à la mode, qui s'est mis à t'attaquer en disant « Joseph Facal n'aime pas les minorités. C'est un homme blanc et il n'aime pas les minorités. » Mais quel crétin qui ne sait même pas que t'es un immigrant, que t'es, à la rigueur, certains pourraient dire que tu as le teint basané, que t'es uruguayen, et que donc, à ce titre... t'es une minorité latino dans un Québec francophone blanc et que, je veux dire, c'est quoi la différence entre toi et, Normand Brathwaite?
Oui, voilà.
Je veux dire, comment peut-on dire que tu n'aimes pas les minorités? Tu en es une minorité?
C'est complètement aberrant. En fait, même que l'un de ces militants particulièrement crinqué, celui justement qui a effacé son propos, a également écrit, et je cite, « Votre comportement est typique de l'immigrant qui désire être plus québécois qu'un Tremblay. » Je ferme les guillemets. Alors, tu comprends, Sophie, la logique perverse qu'il y a dans cette phrase? Pour lui, le bon immigrant, c'est l'immigrant qui devrait pas essayer d'être trop québécois. On a presque envie de lui demander, mais combien de décennies il faut avoir habité dans un endroit pour pouvoir dire « j'y suis chez moi ». Probablement que lui dirait « non, je dois toujours exalter, bien sûr, ma différence ». Eh bien non, moi, j'ai pas du tout cette conception du vivre ensemble. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il a retiré son propos, il s'est excusé, mais ça montre, si tu veux...
Mais il s'est pas excusé à toi. Il ne s'est pas excusé à toi. Oui, il s'est pas excusé à toi, Québec solidaire ne s'est pas excusé à toi, et il reste que, je tiens à le souligner, toi, pendant ta carrière, tu n'as jamais utilisé la carte de l'immigrant, tu n'as jamais utilisé la carte de la victime, tu n'as jamais utilisé la carte de « je suis membre d'une minorité, donnez-moi un traitement particulier », tu n'as jamais utilisé cette carte-là, puis il faut le faire quand même, t'as milité et t'as été partie prenante d'un projet collectif qui est l'indépendance du Québec. Donc, je veux dire, puis là, aujourd'hui, il faudrait te reprocher d'avoir voulu, en tant qu'immigrant, faire partie de ce projet collectif-là québécois. T'es trop québécois, Joseph. C'est quand même le bout du bout en 2021.
Je te remercie de prendre ma défense et de plaider ma cause avec autant d'éloquence. Merci beaucoup, ça me touche profondément ce que tu dis.
Parlons du français, Joseph, parce qu'on a assez gaspillé de salive pour parler de ces gens-là. Écoute, parlons du français parce que aujourd'hui, le ministre Simon-Jolin Barrette va rendre publique sa réforme de la loi 101. Il faut préciser qu'au moment où on se parle, il est 9h39, donc ce segment est préenregistré. Donc au moment où on se parle, on ne sait pas exactement quelle est la teneur de cette réforme de Jolin Barrette. Je veux parler avec toi justement en tant qu'ancien député ministre péquiste, pourquoi c'est si important? Si tu devais expliquer, mettons, à un anglophone ou à un néo-québécois qui vient d'arriver au Québec, pourquoi c'est si important la loi 101?
Oh mon Dieu! Écoute, Sophie, il faut renverser un quart de siècle de négligence linguistique. Il y a bien entendu eu l'incroyable laisser-aller des années Couillard-Charest. Il y a eu l'intermède du gouvernement impuissant, pas parce que minoritaire de Mme Marois entre 2012 et 2014, mais la vérité oblige aussi à dire qu'après 1995 et la défaite référendaire, même les gouvernements Bouchard et Landry, tétanisés par cette défaite, n'ont pas été aussi vigoureux qu'ils auraient dû l'être. Donc, il y a un quart de siècle de négligence à corriger, plus évidemment, comme obstacle supplémentaire, cette ère du temps qui pose comme liberticide toute restriction au libre choix et qui souvent d'ailleurs confond l'ouverture avec l'effacement de soi, comme si le français était une entrave, un dérangement, un obstacle, avec évidemment pour résultat que le gouvernement du Québec ne respecte même plus ses propres lois en fonctionnant finalement dans la langue que choisit l'usager. Dans des municipalités, évidemment, on a le statut de municipalité officiellement bilingue, alors que le pourcentage d'anglophones y est extrêmement faible. Le français recule dans les commerces, dans l'affichage, dans les milieux de travail. Dans l'enseignement supérieur, au cégep et à l'université, les progrès de l'anglais sont fulgurants. La francisation des immigrants est un échec complet. La régionalisation des immigrants à l'extérieur de Montréal également. Et bien entendu, Sophie, décennie après décennie après décennie de débats linguistiques, on est encore en train de devoir expliquer à des gens la différence qu'il y a entre le bilinguisme individuel, bien entendu qu'il faut apprendre l'anglais et parler le plus de langues possible, et le bilinguisme institutionnel qui, au fond, pose la question de savoir dans quelle langue veut-on que soit la vie publique au Québec. Et bien entendu, dans un contexte où le poids du français baisse continuellement au Canada et donc en Amérique du Nord, eh bien, si on veut éviter ce que j'appelle douloureusement l'acadianisation des Québécois, il faut agir maintenant.
Oui, l'acadisation ou la louisianisation aussi, on en a parlé longtemps de ce statut-là qui mine le Québec ou qui menace de s'instaurer au Québec. Écoute, les chiffres sont quand même clairs, les démographes le disent. Si on ne fait rien, en 2030, à Montréal, les parlants français seront minoritaires. Moi, là, Joseph, ce chiffre-là m'empêche de dormir la nuit, et c'est pour ça que ce que va annoncer Simon Jolin Barrette aujourd'hui est si important.
Remarque, il est révélateur aussi et encourageant que des quatre partis à l'Assemblée nationale, les quatre à des degrés divers, les quatre pense que le moment est venu d'agir.
Oui.
Donc, évidemment,
ça rassure.
En gardant en tête ce que tu as dit, entre le moment où nous nous parlons présentement et le moment où les mesures seront dévoilées, on peut évidemment s'attendre à ce que le gouvernement fasse un peu comme il a fait, si tu veux, avec la loi sur la laïcité. C'est-à-dire qu'il essaiera de passer entre la position plus dure du Parti québécois et la position plus molle du Parti libéral. Il va essayer, si tu veux, d'avoir une approche un peu centriste. Probablement qu'il n'ira pas jusqu'à aborder la question des cégeps. Mais évidemment, écoute, c'est un gouvernement qui a beaucoup promis, qui annonce des mesures qu'il qualifie de costaudes. Et dès ce matin, Sophie, dès ce matin, si tu vas sur le site du journal La Gazette, certains des commentaires des lecteurs, ça annonce évidemment une partie des réactions au sein de la communauté anglophone.
Comme si le fait que le Québec affirmait la prédominance du français, comme si ça allait enlever ne serait-ce qu'un millimètre de droit ou de pertinence à cette minorité qui, rappelons-le, est la minorité linguistique la mieux traitée à travers le pays, que ces gens-là ne viennent pas pleurer en disant « c'est effrayant, on nous enlève des droits ». Allez faire un petit tour au Manitoba, allez faire un petit tour à Vancouver, allez faire un petit tour à Ottawa, voir comment les francophones sont traités, vraiment des fois là. Il faut mieux pour notre santé mentale, pour notre santé cardiaque, pas aller faire trop de tours sur le site de la Gazette. Merci beaucoup, Joseph. Alors donc, on aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. Écoute, t'es mon latino préféré. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ciao.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Quand vous regardez les nouvelles à la télé, que vous prenez vos nouvelles à la radio, que vous lisez les nouvelles dans le journal et que vous voyez écrit ou que vous entendez escalade du conflit israélo-palestinien, tir de roquettes, émeutes, ben ça vous paraît peut-être loin, mais quand on est sur le terrain, c'est l'horreur, c'est le drame. Je voulais absolument parler à quelqu'un qui vit ça au quotidien là-bas en Israël. Je vous propose donc qu'on rejoigne tout de suite Myriam Azoghi Alb-Wax. Elle est à Ra'anana, c'est dans le centre du pays, pas loin de Tel Aviv. Madame Azoghi Alb-Wax, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour.
Myriam, première question, comment allez-vous?
Écoutez, ça va, j'ai connu des meilleurs moments, je pense, dans ma vie, mais ça va, très fatiguée, c'est tout.
Très fatiguée, bon. Je vous ai écrit hier soir par Facebook pour vous demander de vos nouvelles et vous demander si vous accepteriez de venir nous parler. Et à ce moment-là, on était en pleine nuit en Israël et vous m'avez écrit « Écoutez, Sophie, je suis dans une pièce abri de la maison avec mon mari et mes trois filles. Vous étiez en plein bombardement à ce moment-là? »
Il y avait une alerte qui avait résonné dans notre région, oui, absolument. Et quand il y a ces alertes, eh ben on sait pas où ça va tomber exactement, nous civils. On sait juste que s'il y a une alerte, ça veut dire que ça risque de tomber à proximité. Et donc à ce moment-là, on a plusieurs options, soit on a une chambre comme on en a une nous ici heureusement dans notre appartement qui est une chambre blindée, donc une chambre abri. Soit on va dans les escaliers, soit on va dans des abris qui sont soit dans les sous-sols des immeubles ou dans la rue. Il y a plusieurs abris, les abris publics. Qui sont ouverts en ce moment, évidemment, puisqu'on est en période d'alerte. Et donc, il faut aller s'abriter immédiatement parce que, on ne sait pas où ça va tomber. On espère toujours, évidemment, qu'on a le dôme de fer qui va intercepter ces roquettes. Mais voilà, la consigne, c'est on s'enferme et on s'abrite.
Expliquez à tous les gens qui nous écoutent ce qu'est le dôme de fer dont s'est doté Israël.
Alors, le dôme de fer, c'est une invention absolument incroyable parce qu'elle nous sauve. Je veux dire, aujourd'hui, je vous parlerai pas et il y aurait pas grand monde qui pourrait vous parler si on n'avait pas le dôme de fer. C'est en fait je suis pas très technique, hein, donc ça va être vraiment très...
Mais expliquez-le dans vos mots. Oui, expliquez-le dans vos mots.
Voilà. En fait, c'est un système antimissile. C'est un système qui permet d'intercepter les roquettes qui tombent et qui les explose en l'air. Donc, c'est-à-dire qu'on va entendre toujours deux booms. On va entendre le boom de la roquette et le boom de la roquette qui s'est fait exploser par le dôme de fer. Et il faut savoir que si on n'avait pas ce dôme de fer, sachant le nombre de roquettes qui sont tombées depuis ces derniers jours sur tout Israël, alors bon, on a quand même des morts, hein, faut pas. Je sais que les informations de notre côté ne passent pas forcément très très bien à l'étranger, on a quand même aussi des morts, et puis les roquettes, elles ne distinguent pas selon que les civils soient juifs, musulmans, chrétiens, athées, druzes ou... ou je ne sais pas encore. Et donc il y a aussi des morts musulmans de notre côté, des bédouins aussi qui ont été tués. Et puis hier il y a eu un petit enfant de 5 ans qui a été assassiné. Donc voilà, c'est le dôme de fer, c'est notre protection, parce que vu le nombre de roquettes, là, c'est une pluie de roquettes, quoi, et on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. On aurait beaucoup plus de malheurs dans notre pays. Donc voilà.
Myriam, vous nous avez dit, donc, en fait, je l'ai dit dès le début, vous étiez dans cette pièce abri, cette pièce blindée avec vos trois filles qui ont 10, 14 et 16 ans. Comment on explique à nos enfants la situation? Comment on leur explique que dans le pays où on vit, il y a des missiles qui tombent du ciel? Comment on explique ça à des enfants?
Bah, écoutez, c'est pas facile, parce que d'abord moi mes filles sont nées, elles ont grandi à Montréal. Alors c'est pas quelque chose auquel on est habitué à Montréal, de se dire qu'il y a le voisin d'à côté qui vous tire des missiles et qui veut juste vous tuer, quoi, de façon indistincte, sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes, sans vous connaître du tout, quoi. Ça c'est déjà une difficulté en plus par rapport au reste de la population, pour tous les gens qui ont immigré dans ce pays, et puis surtout d'endroits aussi paisibles que le Québec. Alors ça déjà c'est compliqué. Dans les écoles, il y a quand même un apprentissage dans les écoles. On leur apprend à vivre avec cette menace. Ils font des tests régulièrement, vous savez, un petit peu comme les tests qui ont commencé à être faits dans les écoles au Québec pour les tireurs fous. Oui. On a beaucoup de tests comme ça ici pour en cas d'attaque terroriste. Donc ils sont préparés à l'école. Et puis sinon à la maison, on leur explique, on essaye d'être le plus calme. Mais je vous avoue que en tant que parent, en tant que mère, c'est pas facile là en ce moment, parce qu'on sort tout juste d'une année quand même plutôt épuisante et éprouvante, comme tout le monde dans le monde entier, avec une année Corona. On s'est fait enfermer quand même trois fois, on a eu trois confinements ici. L'économie a pris un coup sévère, et puis nous, les écoles ici ont été fermées. Moi, ma fille de 14 ans n'a pas eu d'école du tout, c'est-à-dire uniquement par Zoom. Ouais. Depuis le 15 septembre jusqu'à là, il y a à peine un mois, quoi. C'est-à-dire qu'elle est à peine revenue à l'école. Et donc on est déjà sur un terrain qui est assez difficile. Et ça, c'est pas simple, parce que dans les familles en ce moment, c'est pas facile. On se retrouve une fois de plus à être enfermé à la maison. Et puis, vous savez, je vais vous dire aussi ce qui est un petit peu difficile, c'est que il faut leur apprendre aussi à ne pas haïr. Parce que c'est difficile de quand on est un enfant, de se dire, je le connais pas, j'ai jamais vu. Et puis, il veut juste me tuer. Et puis, ma vie, elle est complètement bouleversée. Je peux plus aller voir mes copains, mes copines. Je peux plus sortir, parce qu'on sort pas, là, en ce moment. Mm-hmm. On sort de façon sporadique pour aller se ravitailler, pour, voilà. Mm-hmm. Mais, c'est difficile de leur expliquer aussi qu'il faut surtout pas tomber dans la haine de l'autre, parce que c'est ça le but, quoi. Je veux dire, c'est le but des terroristes, c'est que tout le monde se haïsse, et puis c'est ce qu'ils essayent de faire. Vous savez bien qu'il y a des émeutes en ce moment dans notre pays de part et d'autre, et c'est ce qui est pour moi le plus inquiétant, je vais vous dire, même plus que les roquettes.
Plus que ces émeutes, donc, des vraiment où les gens viennent au point, en fait, où des armes, il y a des affrontements dans les rues entre des Juifs et des Arabes. Ça vous inquiète plus pour l'avenir d'Israël et pour l'avenir de vos filles que les tirs de roquettes?
Ouais, complètement. Parce que vous savez, le Hamas, c'est une organisation terroriste qui préfère dépenser des millions de dollars. Vous savez combien ça coûte? Je suis pas très bonne sur l'argent. Désolée de rompre un cliché antisémite, mais je suis pas très forte avec ça. Mais c'est à peu près, c'est environ 50 000 $, une roquette, vous imaginez le nombre d'argent qui est parti en fumée, là. Alors que je pense que la population de Gaza aurait peut-être plus besoin de mettre cet argent dans l'éducation, dans les infrastructures, dans les écoles, plutôt que ça. Mais le Hamas préfère se prélasser dans leur argent, se faire des jets privés et des palaces et laisser leur propre population. Et puis surtout maintenant, aller exciter les Arabes israéliens qui vivent ici avec nous, parce que c'est un petit peu ça l'histoire quand même. C'est que derrière, en fond, il y a évidemment une histoire politique, c'est qu'il devait avoir des élections dans l'autorité palestinienne, qu'il n'y avait pas eu depuis 16 ans, depuis 2004, et quand Mahmoud Abbas Abou Mazen a compris que il risquait de ne pas être réélu, parce que le Hamas risquait de rafler toutes les voix. Il faut savoir qu'il n'y a pas de véritable démocratie, donc toute possibilité d'opposition au système corrompu de Abbas, la seule alternative pour eux, malheureusement, c'est le Hamas, parce que c'est les seuls qui sont vraiment organisés. C'est pas parce qu'ils veulent absolument se retrouver dans les bras d'organisations terroristes qui vont les rendre misérables, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres alternative. Donc les élections ont été annulées. Et du coup, là, le Hamas essaye de montrer aux Arabes israéliens et aux Palestiniens de Cisjordanie que ce sont eux les seuls représentants du peuple palestinien. Donc ils essayent de semer la zizanie. Le problème, c'est que c'est une organisation terroriste. On finira par en venir à bout. Il y aura un moment où on finira par venir à bout de cette organisation terroriste. Le problème, moi, ce qui m'importe plus en tant qu'être humain, c'est les humains. Et moi, j'habite dans une région qui est au-dessus de Tel Aviv, comme vous avez dit, qui est une région où très calme. Oui. C'est une région paisible, c'est des vergers. C'est pas, il y a pas de tension dans ma région. Il y a plein de villages et de villes arabes tout autour. Les Arabes viennent travailler dans ma ville et aux alentours. Il y a des villes à côté qui sont des villes ce qu'on appelle mixtes, où il y a des Arabes et des Juifs. En temps normal, il y a pas de tension, quoi. Je ne connais pas la tension. Quand je regarde les informations extérieures, ça me fait toujours rire, parce que c'est pas mon pays, c'est pas ma réalité, en tout cas. Ici, je dis pas que tout va bien et que c'est magnifique, hein. Je suis pas une propagandiste. Non,
mais vous parlez de votre expérience, voilà.
Oui. Exactement. Les commerçants en bas de chez moi, ma pharmacie, les médecins, enfin, je veux dire, on vit ensemble et on vit parce que c'est des gens comme nous, quoi, qui veulent juste vivre leur vie de famille et qui se lèvent pas tous les matins en se disant comment je vais pourrir la vie de mon voisin, quoi. C'est tout. C'est ça la base de la paix. C'est pas un traité ou des politiques qui vont s'asseoir autour d'une table pour signer un traité. C'est pas ça la paix. La paix, c'est les gens qui vont la vivre. Et là, le problème, c'est que là, il y a de la zizanie à l'interne et que il y a des jeunes excités qui représentent pas, je sais bien qu'ils représentent pas la majorité de la population arabe, de la même façon qu'hier on a vu des scènes absolument ignobles pour nous de juifs qui s'en prenaient aux arabes, qui répondaient à ce qui s'était passé la veille, où on était tous catastrophés de regarder des gens qui vivent avec nous. On parle d'arabes israéliens, c'est une autre réalité. Je veux vraiment que les gens comprennent que ça n'a rien à voir. C'est des gens qui vivent avec nous, avec qui on travaille, avec qui on vit tous les jours, on prend le bus avec eux, on va au café. Ça n'a rien à voir. C'est très très loin de tout ce que les soi-disant, excusez-moi, mais beaucoup de journalistes que je lis encore, puisque j'ai toujours un pied au Québec.
Oui, bien sûr.
Par mon cœur. Quand je lis les informations, quand je lis les soi-disant analyses de soi-disant journalistes, je me dis mais venez ici, quoi, arrêtez. Je dis pas que c'est le pays de paradis, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ma réalité. Je parle aussi avec des hommes, mais de quoi ils parlent, quoi. On n'en est pas là. Et le problème aussi de tout ça, c'est que nous, par contre, on est condamnés à vivre ensemble. On doit vivre ensemble. C'est tout. Nous, on partira pas. Ça faudrait aussi que le message passe une bonne fois pour toutes. Les Juifs partiront pas, ok. De la même façon que les Arabes ici ne partiront pas non plus, parce qu'ils sont autant chez eux que nous sommes chez nous. Donc, il faut qu'on vive ensemble. Et ce genre d'émeutes, qui sont évidemment pilotées par des mouvements racistes de part et d'autre et d'extrêmes qui n'ont aucune solution à apporter après, qui veulent juste monter comme ça, faire chauffer les braises, comme tous ces gens qui essayent depuis l'extérieur de nous condamner unilatéralement et indéfinitivement pour je ne sais pas quoi, d'ailleurs pour à peu près tous les malheurs du monde. Mais il faut savoir que nous ici, on partira pas, personne ne va partir, qu'on va vivre ensemble. Alors, ce genre
c'est important de
choses,
de le préciser.
C'est très, très, oui.
Très inquiétant.
Oui, parce que voilà. Alors évidemment, on regarde. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas voulu allumer la télé. Et depuis hier soir, j'ai arrêté d'allumer la télé parce que c'est assez douloureux de voir tout ça. Et puis encore une fois, moi, j'habite pas dans le sud. Moi, j'ai une minute pour aller. Ça aussi, il faut le préciser. C'est que moi, j'ai une minute, 60 secondes. C'est énorme, la différence. Les gens dans le sud ont 15 secondes. 15 secondes. Vous savez ce que c'est, 15 secondes? Imaginez, chose toute bête, vous êtes aux toilettes. Vous êtes à la toilette, vous êtes tranquille, vous êtes en train de prendre votre douche. Et là, vous avez 15 secondes pour aller vous mettre à l'abri, prendre vos enfants éventuellement, prendre le chat. Voilà, chose toute bête. Vous savez, 15 secondes, c'est énorme. Moi, en une minute, cette nuit, on a eu deux alertes. Moi, j'ai pas eu le temps d'aller prendre mon chat, par exemple. C'est pas très, très grave. Je suis bien consciente que par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, mais je veux que les gens comprennent un petit peu la réalité qu'on vit, qui est très, très loin de tout ce qui est décrit dans les journaux et les plateaux télé de gens qui sont tranquillement assis sur leur salon, dans leur salon, et qui donnent des conseils aux gens qui vivent ici. Ici, on est tous chez nous. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Il faut qu'on va devoir faire un travail. Je ne sais pas quand ça va commencer. Je ne sais pas quand cette guerre va se terminer, parce que c'est quand même une guerre, mais qui est excessivement pénible, parce que en plus, elle arrive après cette année aussi éprouvante pour tout le monde. Mais vous savez, il y a deux semaines, il y a eu un terrible accident dans le nord d'Israël à l'occasion d'un pèlerinage religieux.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui. 44 morts, ouais.
Oui, 45 morts, et principalement des enfants. Ça a été une tragédie nationale. Et vous savez quoi? C'était en plein Ramadan. Et c'était dans le nord, en Galilée. Et donc, il y avait beaucoup de villes et villages arabes tout autour qui sont venus, eux, qui étaient en train de jeûner. Ils étaient en plein jeûne, en plein Ramadan. Ils sont venus apporter aux familles qui venaient chercher dans les... Voilà, ils sont venus leur apporter à boire, ils sont venus leur apporter à manger. Je veux dire, pendant le corona, on a vécu des choses qui étaient très douloureuses, mais où on a vu qu'on était ensemble, voyez. Maintenant, c'est sûr que les extrémistes de tout poil et ceux qui veulent pas qu'on soit là, ils peuvent pas supporter cette vision de nous pouvant vivre
Myriam. Ensemble. Oui, je trouvais ça très important de vous parler aujourd'hui. Je peux juste vous dire bon courage pour la suite des choses. Bon courage aussi à vos filles de 10, 14 et 16 ans. Donc, je sais pas comment on dit courage en hébreu, mais je vous le dis en français. Myriam Azoghi Albouax, dont vous nous parlez en direct de Ra'anana, dans le centre d'Israël, pas loin de Tel Aviv. Vous avez passé donc la nuit dans cette pièce abri, cette pièce bétonnée pour vous protéger des tirs de roquettes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aux auditeurs de Cube Radio aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment.
Bon courage. Merci Myriam.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Il et elle ont été nos anges gardiens pendant la pandémie, vous savez, dont je parle bien sûr des infirmières et infirmiers du Québec. Chaque année, il y a une grande fête, où on remet des prix, les prix Florence, aux infirmiers et infirmières qui se sont démarqués pendant l'année. Alors, vous pensez bien que cette année, il y avait vraiment l'occasion de souligner l'excellence dans la profession. Je vous propose une entrevue entrevue avec Sonia Eppel. Elle est infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et elle est récipiendaire du prix Florence 2021 pour son engagement professionnel. Madame Eppel, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Alors, deux choses, bravo et merci. Bravo pour ce prix Florence, merci pour tout le travail que vous et vos collègues vous fournissez déjà en temps normal, mais encore plus en période de pandémie. Parlez-nous un petit peu de ces prix Florence, pourquoi ils s'appellent Florence et pourquoi c'est important dans votre profession?
Florence Nightingale, mm-hmm. on connaît ou presque, que je crois, et en fait, est une pionnière de la formation de la profession. Donc, chaque année, l'Ordre des infirmières reconnaît dès Florence, je vais le dire comme ça, des oui. Florence, des infirmières qui ont contribué d'une façon quelconque, mais de façon importante à la profession. Et donc, cette année, j'ai eu la chance, l'opportunité de remporter le prix engagement professionnel et je me dépêche de vous dire que je veux partager ce prix. Je saisis l'opportunité que vous me donnez de dire que je veux partager ce prix-là avec plusieurs personnes et plusieurs infirmières avec qui j'ai travaillé durant des années, qui ont été pour moi des mentors, des guides. Alors, je pense que c'est une occasion, la soirée des Florence, la semaine des infirmières, de célébrer l'infirmière. Et vous avez raison de leur dire merci.
Oui, parce que, bon, en temps normal, on n'y pense pas tout le temps. Mais c'est sûr que depuis un an, depuis le 13 mars 2020, depuis l'arrivée de la pandémie, c'est un incontournable. Comment ça s'est passé, vous, votre année à l'Institut de cardiologie de Montréal par rapport à une année, entre guillemets, normale?
Bien, ça a été une année intense. Je dirais que ça a été une année intense pour tout le réseau, par ailleurs, Mme Durocher, mais bien sûr, pour les infirmières qui sont au quotidien au front. Donc, ça a été une année où elles ont dû faire preuve de résilience, je dirais, d'une grande capacité d'adaptation. Elles ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Elles ont été sorties de leur zone de confort, hein, définitivement, pour mm-hmm. aller donner du soutien à cette pandémie-là, ou enfin plutôt tenter de la combattre, mais c'est dans des activités autres, des activités de vaccination, des activités de dépistage, bref. Donc, c'est une année intense, définitivement. Elles sont probablement un peu essoufflées, mais toujours tout aussi résilientes et engagées. Je pense qu'elles sont au front parce qu'elles sont en mesure de l'être, puis elles ont fait la différence, je suis d'accord avec vous.
Oui. En même temps, il y a un côté triste, Madame Eppel, je m'explique. On a l'impression que ça a pris cette pandémie-là pour que une partie de la population prenne conscience, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, que ce soit les employés d'entretien, que ce soit vous, les infirmiers, infirmières. On a l'impression que il a fallu que des gens meurent à pleine poche dans les hôpitaux, dans les CHSLD, pour que on prenne conscience de l'importance du rôle que vous jouez. Vous trouvez pas ça un tout petit peu triste?
On peut peut-être le voir ainsi. Vous avez raison. Peut-être que les travailleurs du réseau de la santé, dont les infirmières, mais vous en avez nommé avec raison bien d'autres, là. Peut-être qu'on est des travailleurs dans l'ombre. Est-ce qu'on peut dire ça? Peut-être.
Oui, oui.
Qui rend au contraire moins important le travail qu'on fait. Est-ce que la pandémie a tourné un peu, et là je vais me permettre un anglicisme, un peu le spotlight sur le travail oui. important que l'on fait dans le réseau de la santé? Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire peut-être que ça, c'est une des petites bonnes choses. Il n'y en a pas eu beaucoup à cette pandémie-là, là. Mais peut-être une des petites bonnes choses qui aura permis de mettre un peu plus sur la sellette le travail extrêmement important, nécessaire, essentiel de tous les travailleurs du réseau de la santé, en fait.
Oui, on l'oublie, hein? 80 000 infirmières et infirmiers, c'est énorme. Alors, cette soirée-là, la fête, donc, des Florence 2021, c'était animé virtuellement, évidemment, parce qu'on peut pas se réunir en personne cette année. C'était animé par France Beaudoin, et ce que j'en vois comme description sur le site de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, c'est que il y a eu des hommages en musique, et aussi un hommage de David Goudreau. De quoi il a parlé, David Goudreau, et à quel point ça vous a touché, Madame Chappelle?
En fait, je ne vais surtout pas tenter de répéter ce que David Boudreau a fait et a fait tellement bien.
Oui.
C'était tellement senti, mais en fait, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a touchés. C'était magnifique, c'était parlant, c'était encore une fois senti. Et je pense que cette fête-là, vous parlez de la fête des Florence et de David Boudreau et de son hommage, en fait, mais je pense que ça a touché. C'était la fête des infirmières, au-delà de celles dont je suis encore une fois extrêmement reconnaissante, au-delà de celles qui ont reçu des prix. C'était la fête, je crois, que l'Ordre des infirmières, France Baudouin, vous l'avez nommé, mais toute son équipe, se sont données pour rendre hommage aux infirmières, au-delà de celles qui ont reçu des prix. Et encore une fois, là, nous étions toutes d'accord pour dire qu'on partageait ces prix-là. Donc, c'était un hommage fantastique, une magnifique soirée. On va se dire, dans le respect de toutes les précautions, un party qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, mais qui a été vraiment mémorable. Et encore une fois, c'était un merci et un moment de reconnaissance aux 80 000, comme vous le dites, infirmières du Québec. Alors, quelle soirée mémorable.
Oui. Alors, je veux rappeler, on a remis ce soir-là 7 prix Florence. Bon, excellence des soins, leadership, pratique collaborative, la relève aussi. C'est bien de savoir qu'il y a de la relève dans le domaine des infirmières. C'est allé donc à Sarah Alami Hassani, promotion de la santé, enseignement et recherche en sciences infirmières. Et vous, c'était le prix pour engagement professionnel. Ça signifie quoi, Madame Eppel?
Engagement, c'est un grand mot, hein?
Ouais.
Ça englobe beaucoup de choses, je pense. En fait, peut-être que ce que je vais dire pour moi, c'est certainement que j'ai un certain âge, un âge vénérable quand même, mais ce que je peux dire, c'est que tout au long de ma profession, je me suis engagée et ce qui a été important pour moi, c'est de soutenir la relève. Vous venez d'en parler, alors je me suis engagée. J'ai donné le temps, l'énergie, les compétences que j'avais avec des équipes extraordinaires, des collaborateurs extraordinaires à soutenir cette relève-là qui est importante. Puis je pense que s'engager, c'est aussi, je dirais, croire à la profession et donc donner et investir au développement de la pratique avancée. Et ça passe entre autres par la formation, ça passe par ajouter, parfaire les compétences qui sont déjà là à la formation de base, mais tu sais, travailler au jugement, au raisonnement clinique, à développer chez nos infirmières le leadership, cette maîtrise des aspects éthiques. Donc, je me suis personnellement engagée à ça tout au long de ma carrière. Fait que c'est probablement une petite définition de l'engagement que je vous donne là, qui est la mienne.
Mais c'est une très, très belle définition, Madame Eppel. Depuis le début, on se parle, je dis infirmière, bon, parce que par souci d'équité, mais on se le cachera pas, c'est quand même une profession qui est très, très, très majoritairement féminine. On a beaucoup dit pendant la pandémie que les femmes étaient heurtées de plein fouet par justement, donc, de par leur engagement. Pourquoi c'est une profession qui intéresse surtout les femmes infirmières? Je vais peut-être vous surprendre avec ma question, mais pourquoi il n'y a pas plus d'hommes infirmiers?
C'est une excellente question et j'aurai probablement pas une excellente réponse, mais c'est de toujours, je crois qu'on a davantage, la gent masculine est davantage représentée. Ça, c'est une chose. Donc, parce qu'on dit que c'est une évolution, certainement, là. Je crois que la gent masculine est davantage représentée, mais oui. Une grande majorité féminine. Est-ce que le soin, est-ce qu'il y a quelque chose d'historique, de social, de génétique? Mon Dieu, quelle est la bonne réponse? Je ne sais pas. Mais oui, on est majoritairement des femmes. Et je pense que le soin est peut-être encore socialement associé à la femme. Je ne sais pas. J'ai pas de bonne réponse, mais je vous dis que la gent masculine et recruter davantage, est intéressé davantage, et on est heureux qu'ils joignent les rangs, définitivement.
Oui, il y en a un d'ailleurs, qui a gagné un prix parmi les 7. Il y en a quand même David Gourde, donc, qui est infirmier clinicien. Et lui, il a gagné le prix Florence de la pratique collaborative. Donc, 1 sur 7, il y a quand même de l'espoir. Madame Eppel, il nous reste 1 minute. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de s'engager dans cette carrière-là comme infirmière, quel conseil vous lui donneriez?
Est-ce que je lui donne des conseils ou je lui dis que c'est la plus belle profession du monde? Vous allez me dire que c'est cliché, mais bon, c'était plus fort que moi, définitivement. J'y crois foncièrement. Il faut leur dire que c'est une profession enrichissante à tout point de vue. Évidemment, au plan des connaissances, de l'expertise qu'on y acquiert, riche de contacts humains. Hein, c'est inhérent à la profession. Alors, je pense qu'il faut leur dire ça. Je pense qu'il faut promouvoir, leur dire que c'est la profession infirmière donne aussi de multiples possibilités de plans de carrière, tant au plan académique qu'au plan clinique ou en combinaison des deux. Je pense que toutes ces raisons sont excellentes d'opter pour la profession infirmière et Dieu sait qu'on en a besoin. On a besoin de relève et quand je vous disais tantôt que je m'y suis consacrée, elle m'épate cette relève, alors il faut l'encourager avec entre autres ces différentes raisons-là.
Vous, pourquoi vous êtes devenue infirmière, Mme Eppel?
Oh mon Dieu, vous fouillez dans ma mémoire, parce que comme je vous disais tantôt, j'ai un âge vénérable, mais ce dont je me souviens clairement, c'est qu'il y avait, plusieurs infirmières dans ma famille, donc j'avais plusieurs amis qui se destinaient aussi à la profession infirmière. Donc, ça a été très inspirant pour moi et ces gens-là, ces femmes-là aussi à l'époque, avaient l'air tellement heureuses dans ce qu'elles faisaient. Puis encore une fois, ça m'a inspirée. Je pense que j'avais besoin de quelque chose qui, de façon flagrante, allait me dire que j'allais faire une différence. Les années m'ont prouvé qu'avec ça, je me suis
que
pas trompée.
Que c'était le cas. Oui. Alors, en tout cas, cette différence-là... différence-là que vous avez faite, elle a été reconnue, donc, cette semaine des infirmières, cette remise des prix Florence 2021, vous êtes une des 7 récipiendaires. Encore une fois, Madame Eppel, bravo et merci pour tout le travail que vous et les 79 999 autres infirmiers infirmières faites au Québec en temps normal et particulièrement en temps de pandémie. Merci vraiment au nom de tous les Québécois.
Merci aux infirmières et merci à vous, Madame Durocher. Merci.
C'est la moindre des choses. Sonia Eppel, donc, qui a remporté cette année un prix Florence 2021, donc nommé en l'honneur de Florence Nightingale pour son engagement professionnel. Vraiment une femme impressionnante. Et c'est là-dessus que se termine l'émission. Merci Jean-François Roy, qui est toujours fidèle au poste à la réalisation. Willem Boivin à la recherche. Luc Fortin aussi, qui a donné un bon coup de main. Et merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve évidemment demain vendredi.
Cube Radio.